Et on va commencer tout de suite. Rubrique numéro 1, le motif de la demande. Donc ici, trois possibilités. En général, c'est une première demande d'autorisation de travail. Donc, mais sinon, si c'est un renouvellement, vous mettez le numéro de l'ancienne autorisation de travail et la date à laquelle a été émise cette autorisation de travail.
Ce n'est pas une idée reçue. Oui, à vos 18 ans, vous serez inscrit automatiquement sur les listes électorales. Mais il y a une condition. Vous devez avoir fait au préalable votre recensement citoyen. C'est une démarche à faire auprès de votre mairie dès l'âge de 16 ans. Si, à vos 18 ans, vous n'avez pas encore fait votre recensement citoyen et que vous souhaitez voter, vous devrez vous inscrire sur les listes électorales. Vous pouvez faire cette inscription sur le site service-public.fr ou par courrier à envoyer à votre mairie, ou encore en allant directement sur place. Vous devrez fournir un justificatif de domicile et un justificatif d'identité. Si vous avez un doute sur votre inscription dans votre commune, par exemple en cas de déménagement ou si vous avez perdu votre carte d'électeur, ou encore si vous voulez simplement vérifier quel est votre bureau de vote, vous pouvez utiliser le service en ligne appelé Interroger sa situation électorale
en France, au Canada ou au Portugal, dans un autre pays. Prénom, taille, date de naissance, lieu de naissance, commune plus département plus pays, adresse, numéro de téléphone portable, si vous voulez être informé par SMS de la fabrication de la carte, nom de famille, title canton et prénom, S, des parents, date et lieu de naissance des parents. Si vous ne faites pas la prédemande, vous devrez remplir le formulaire qui vous sera remis au guichet. C'est un formulaire cartonné qui ne peut pas être téléchargé. Il doit être rempli à l'encre noire et en lettres majuscules. Les informations à indiquer sur le formulaire sont les suivantes. Nom de famille. C'est le nom qui figure sur l'acte de naissance, appelé aussi nom de naissance ou nom patronymique. Deuxième nom. C'est le nom utilisé dans la vie courante, nom d'usage. Il peut s'agir d'un double nom, nom de ses parents ou nom des deux époux accolés, ou d'un nom simple, nom de la personne avec laquelle vous êtes marié. Si vous n'utilisez que votre nom de famille, cette rubrique doit être laissée vide.
CERFA, ça veut dire Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs, un nom tiré de l'organisme auparavant chargé de concevoir et d'enregistrer ces imprimés.
Vous demandez une carte d'identité. Au consulat, vous n'avez pas de formulaire à remplir, car les informations sont directement saisies au guichet.
Les CERFA répondent à un modèle bien défini. Chaque formulaire se compose d'un numéro à 5 chiffres, suivi d'un numéro à 2 chiffres, visant à identifier sa dernière version.
Vous demandez le renouvellement de votre passeport. Vous pouvez faire la demande de renouvellement du passeport sans vous déplacer à l'ambassade ou au consulat si vous répondez à toutes les conditions suivantes. Vous avez toujours votre passeport, il n'a pas été perdu ou volé. Vous étiez âgé d'au moins 18 ans à la date d'émission de votre passeport actuel. Votre passeport est encore valide ou a expiré depuis moins de 5 ans. Vous ne demandez pas le renouvellement de votre passeport pour faire modifier votre nom de naissance ou votre prénom ou votre sexe. Vous ne demandez pas un deuxième passeport, pour raisons professionnelles ou destinations incompatibles. Vous êtes inscrit au registre des Français établis hors de France et avez en votre possession votre numéro d'inscription consulaire. Au consulat. La démarche se fait en plusieurs étapes. Vous ne répondez pas à toutes ces conditions.
Si vous voulez créer une association loi 1901, et il faudra alors vous munir du CERFA 13-973-04. Ce formulaire permet de déclarer une association de façon officielle et de transmettre les informations à publier au journal officiel des associations et des fondations d'entreprise de JOAFE, tels que le nom de l'asso, son objet et son siège social.
Deux cases pour le numéro de téléphone et votre adresse courrier. L'adresse courrier, c'est l'adresse email. Donc pour le téléphone et l'adresse courrier, il est fortement recommandé de les mettre parce que ça va permettre de vous joindre très rapidement ou plus rapidement que les voies classiques. Et donc en cas de questions ou en cas de complément d'information, on vous joindra probablement par email.
L'employeur a le droit de demander des informations au candidat afin d'apprécier ses compétences, ses qualifications et ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien direct avec l'emploi et le poste à pourvoir du salarié en vue de son recrutement.
La situation familiale. Donc, vous cochez la bonne case, célibataire, marié, divorcé, veuf. Il faut faire très attention par rapport à cette partie-là et par rapport aux informations que vous mettez ou que vous fournissez dans cette partie-là. Si quelqu'un cache son mariage à l'étranger, ce qui arrive très très souvent, les gens ils cachent leur mariage à l'étranger, ils mettent célibataire pour faciliter leur obtention de la nationalité française. Il faut savoir que la préfecture finit par le savoir et c'est très très généralement un retrait de la nationalité qui s'ensuit.
Si vous décidez, par exemple, de modifier le mode de scrutin à votre prochain AG, alors vous pourrez utiliser le CERFA 13972-03. La déclaration via CERFA est nécessaire pour déclarer toute modification relative au titre de l'association, à son objet, à l'adresse de son siège social ou à son adresse de gestion.
Information du candidat à l'embauche en CDI. Le candidat qui postule à un emploi en CDI doit être informé au préalable des méthodes et techniques d'aide au recrutement utilisées, tests, cabinet de recrutement par exemple. Les résultats obtenus doivent rester confidentiels.
Dénomination, là c'est ton nom, ton prénom et si possible peut-être la mention EI. Activité exercée, alors je vais prendre un exemple, Florian Charpentier, EI, la dénomination de l'entreprise. Activité exercée, conseil en micro-entreprise. Adresse dans la commune, donc c'est l'adresse de ta micro-entreprise. Donc moi là pour l'instant c'est celle-ci, rue Gaston Boyer, mais je vais encore changer, 51100, oula, Reims. Adresse où doit être envoyé l'avis d'imposition en cas d'édition sous format papier. Bah, tu peux envoyer la même, mettre exactement la même chose. 9, 11, enfin, pas la mienne, mais la tienne.
Sinon, si vous êtes séparé ou divorcé, vous devez mettre l'adresse de votre ex-conjoint et des enfants communs mineurs.
Le 401 à temps plein ne fait pas obligatoirement l'objet d'un contrat écrit. Le 401 à temps partiel doit en revanche être écrit. Le plus souvent, et quel que soit le temps de travail prévu, un contrat de travail écrit et signé répond alors à certaines exigences légales. Attention. En l'absence d'engagement écrit, le contrat conclu est un CDI. Lorsqu'il est établi par écrit, le CDI doit être rédigé en français. Si l'emploi qui fait l'objet du CDI ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le CDI comporte une explication en français du terme étranger.
Enfin, petite particularité, aux yeux de l'administration, la dissolution est considérée comme une modification de votre structure, a priori la dernière. Vous pouvez toujours décider de la laisser simplement en sommeil, auquel cas il n'est pas nécessaire de déclarer quoi que ce soit, mais si vous voulez la stopper définitivement, alors vous devez remplir ce même formulaire pour déclarer la dissolution.
Renseigner le formulaire, le questionnaire CERFA 751-SD. Parce que tout simplement, tu vas l'avoir ce document si tu crées une entreprise. Que ce soit une entreprise individuelle, que ce soit une SASU, que ce soit une SS, que ce soit une URL, que ce soit une SARL, que ce soit n'importe quelle forme juridique, tu vas recevoir un questionnaire CERFA 751-SD.
Pour rappel, la CFE n'est pas due sur la première année d'activité. Ensuite, il y a un abattement de 50% sur la deuxième et vous payez ensuite plein pot à partir de la troisième, etc.
Ce formulaire, en fait, c'est le formulaire des impôts. C'est celui qui est envoyé à chaque créateur d'entreprise pour mieux te connaître.
Première chose qui paraît évidente, vérifier quand même que les informations qui sont dans les cadres au-dessus soient correctes. Là, évidemment, ils sont vierges puisque c'est un formulaire vierge. Ensuite, ici, vous aurez déjà normalement des informations qui seront remplies puisque vous aurez rempli au préalable le formulaire 751.
La première étape, ça va être de renseigner le cadre 1, voilà, qui sont les infos relatives à l'identification de ton entreprise. Voilà, c'est aussi simple que cela.
Vous aurez donc vos informations, nos prénoms, activité exercée, adresse dans la commune, adresse où doit être envoyé l'avis d'imposition en cas d'édition sur format papier, donc globalement votre adresse à vous, numéro ciré de l'établissement, et on s'arrête sur la partie 6, code de l'activité de l'établissement. Alors attention, des fois l'INPI fait n'importe quoi quand on crée des activités. Vous pouvez mettre parfois que vous exercez une activité permanente. Donc c'est permanente, ça veut dire que vous louez à l'année. Vous louez à l'année, ça veut dire que vous avez un bail meublé classique d'un an qui est fait.
Dans le cadre 2, il va falloir que tu marques les coordonnées de ton expert comptable si tu en as un. Donc là, il ne faut pas hésiter à le mettre.
Quand vous louez à l'année et que vous faites une location classique, vous avez normalement le code 6820A. Or, parfois, même quand vous indiquez que vous louez en permanence sur l'INPI, ils vous mettent quand même le code 55.00Z, je crois, qui correspond à une activité donc en fait de loueur saisonnier.
Et troisième, il va falloir renseigner les caractéristiques des locaux qui sont affectés à ton activité. Ah.
Conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée. Contrat de travail à durée indéterminée constitue la forme normale et générale de recrutement d'un salarié par un employeur. L'employeur doit donc avoir recours à ce type de contrat en CDI, sauf s'il peut justifier d'une situation autorisant le recours à un autre type de contrat, CDD-CDD, contrat à durée déterminée ou intérim. Sélection du candidat. Le processus de recrutement ne doit pas être discriminatoire.
Tu dois remplir ce CERFA uniquement si tu as un emploi rémunéré à moins de 36 000 euros par an. Si tu es rémunéré à plus de 36 000 euros, tu es sur du passeport talent et de ce fait, tu as rempli le formulaire passeport talent.
Ton siège social n'est pas chez toi, d'accord ? Il est ailleurs. Alors, ça peut être une société de domiciliation où tu vas louer un local. Ça peut être aussi le cas, tu loues un local qui est totalement indépendant. Et dans ces cas-là, tu dois renseigner les informations sur la situation des locaux, la superficie totale, etc. D'exemple, si tu loues un local de 40 mètres carrés, bah, tu utiliseras un local usage professionnel. Par exemple, on suppose à 100% de bureaux.
Donc généralement, c'est quoi? C'est une première demande d'autorisation de travail. Donc on clique sur « Première demande ». Bon, si c'est dans le cas d'une ronde de renouvellement, vous cliquez sur le renouvellement de l'autorisation de travail, vous précisez la date. Bref, on passe directement au 1.3. À titre accessoire ou motif d'étudiant autre, ça ne nous concerne pas non plus. Donc on ne coche pas cette case. La partie 2, employeur, on va remplir cette partie-là. Donc, c'est l'employeur qui doit vous transmettre ses informations. Hein. Elle rentre son SIRET, elle rentre sa dénomination, son code NAF, sa convention collective, si elle en a, donc l'intitulé. Si c'est une activité réglementée, c'est aussi la partie de l'entreprise qui remplit ça. Donc, elle remplit. Si c'est une formalité, quel type de formalité? Bref, l'entreprise saura.
J'indique si tu es propriétaire, locataire, sous-locataire en domiciliation commerciale ou en domiciliation à titre gratuit. Bon, quand tu es propriétaire, c'est ton entreprise qui est propriétaire, d'accord? Ce qui est peu probable, d'ailleurs, au demeurant. Deuxième possibilité, tu es locataire, c'est-à-dire que tu loues. Ça, c'est probable. Après, tu peux être sous-locataire, c'est-à-dire que, par exemple, ton entreprise te loue à toi, qui est locataire, donc elle est sous-locataire. Tu vois le principe, effectivement, de tout ça. Et donc, tu dois cocher cette fameuse case et répondre à ces questions. Maintenant, n'oublie pas, si tu disposes de place de parking, de le cocher également. Savoir aussi si tu loues en meublé, hein, notamment, ça, c'est un point. Donc, je rappelle, louer en meublé, ça signifie que tu as des bureaux, tes chaises, tout est complètement mis en œuvre.
Il faut d'abord que tu télécharges le fameux formulaire. Le formulaire, il est ici. Il faut bien vérifier qu'il y a marqué cotisation foncière des entreprises 2025 pour les créations d'établissements intervenues en 2024. C'est ton cas, tu as créé en 2024, donc tu dois le remplir. Donc, ici, tu marques ton département, le commune, lieu d'imposition. Donc, département, ici, c'est la Marne, commune, Reims. Ici, tu donnes l'adresse de ta micro-entreprise. Ici, tu le laisses vide.
Comprenez bien que c'est problématique pour moi, madame. Ça fait déjà deux fois que vous venez en l'espace de 6 mois. On se pose certaines questions avec l'équipe.
La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure ou tout ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Un tuteur personne désignée pour exercer une mesure de protection d'un majeur ou d'un mineur, par exemple. Le représenter dans les actes de la vie courante, gérer ses biens. La représente dans les actes de la vie courante. Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.
Vous avez des enfants, donc ça nous pose souci. Comment ça se passe à la maison? Au niveau des factures, au niveau du frigo, au niveau des repas des enfants, comment ça se passe? Est-ce que vous avez de quoi les nourrir? Ça reste quand même inquiétant. Comprenez-le que ça nous inquiète énormément, la situation. Et ouais.
Quel document présenter pour la demande d'ouverture de tutelle? Certificat médical circonstancié décrivant la dégradation des facultés de la personne à protéger et l'évolution prévisible. Copie, recto verso, de la pièce d'identité de la personne à protéger. Description des faits indiquant la nécessité de mettre en œuvre la mesure de protection. Formulaire CERFA numéro 15891. Les informations suivantes doivent également être indiquées dans la demande. Personne appartenant à l'entourage du majeur à protéger, par exemple, son époux ou épouse, son partenaire de PACS. Nom du médecin traitant de la personne à protéger, S'il est connu. Copie intégrale de l'acte de naissance de la personne à protéger, de moins de 3 mois. Copie, recto verso, de la pièce d'identité de la personne qui formule la demande. La personne à l'origine de la demande doit préciser, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, financière et patrimoniale du majeur. Une fois rempli, le formulaire et l'ensemble des pièces doivent être adressés au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.
Et malheureusement, ça nous inquiète pour autre chose. Le problème n'est même pas la facture. Nous, on ne s'occupera pas de la facture spécifiquement. Par contre, attendez, bougez pas.
Si votre employeur, c'est un particulier, alors il faut qu'il note son nom et son prénom et son numéro de URSSAF et son adresse, ainsi que son complément, son code postal. Donc ça est rempli. Et la troisième partie, c'est notre partie à nous. Donc c'est vous, personnellement. Donc votre prénom, votre sexe, votre date de naissance, votre nationalité, le code postal de la commune de résidence en France. Donc si vous habitez dans le 94, vous mettez 94. Ensuite, vous remplissez les informations de votre titre de séjour, de votre autorisation provisoire de séjour. Donc, en l'occurrence, généralement, avant de changer de statut, on a une autorisation provisoire de séjour. Donc, on met autorisation provisoire de séjour.
La partie suivante concerne les enfants. Si vous êtes concerné par cette partie-là, vous devez remplir toutes les informations concernant vos enfants. Nom, prénom, ville, pays de naissance, adresse actuelle, nationalité. Et si jamais il y a des enfants qui sont mineurs, vous avez des enfants mineurs qui n'ont pas la même adresse que vous, vous devez indiquer pourquoi. Vous devez dire quelles en sont les raisons ici.
Si le salarié est âgé de moins de 18 ans, il ne peut signer son contrat qu'après autorisation de son représentant légal, personne désignée par la loi pour représenter et défendre les intérêts d'une autre personne. Par exemple, le père ou la mère d'un enfant mineur ou le dirigeant d'un organisme.
La page suivante concerne la déclaration sur l'honneur. Donc ici, vous mettez la ville, la date et votre signature. Donc vous certifiez l'exactitude de toutes les informations que vous avez indiquées sur les pages précédentes.
Les circulaires qui interprètent le droit positif ensemble des règles juridiques applicables dans un état à un moment donné ou décrivent une procédure administrative sont publiés sur support papier ou internet. Le contrat peut être suspendu, situation durant laquelle le paiement du salaire par l'employeur et l'exécution d'un travail par le salarié cesse temporairement, par exemple, exercice du droit de grève, fonction de juré d'assises, maladie ou accident du travail, congé de maternité, de paternité, d'adoption ou parentale, congé sabbatique, fermeture temporaire de l'entreprise, mise à pied, sans être rompu dans certains cas, par exemple, congé de maternité, congé de paternité, grève. Loi, règlement. Circulaire, instruction. Selon l'adage, nul n'est censé ignorer la loi. Cela signifie que vous ne pouvez pas justifier une action ou un comportement en disant que vous ignoriez que c'était interdit ou encadré par des règles. La publication de la réglementation OJORF permet à chacun d'y avoir accès.
Pour les dons effectués par des particuliers, il s'agit du CERFA 11-580-05.
Inscription au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des médias et l'artisanat, des métiers de l'artisanat. Ça, c'est si tu dépends de la chambre de métiers et l'artisanat. Donc, c'est pour les activités, par exemple, de secrétariat, les femmes de ménage, tout ce qui est esthétique, prothésie angulaire, les créateurs de bijoux, etc. Tout ce qui est un peu dans l'artisanat, un BTP ou autre, l'esthétique, c'est du oui. Tout le reste, normalement, en principe, c'est censé être du non.
Passons au mécénat et aux dons des entreprises. Dans ce cas, il faudra vous tourner vers le CERFA 16-216-01.
La rupture du CDI est possible dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, conventions collectives, accords collectifs, accords de branche, d'entreprise ou d'établissement applicables en droit du travail. Elle fixe les obligations et les droits de l'employeur et du salarié.
Vous aurez probablement besoin, à un moment ou à un autre, d'effectuer une demande de subvention. Et évidemment, l'administration a un CERFA pour ça, il s'agit du 12-156-06.
Si tu as changé ton numéro de SIRET en adresse professionnelle en 2024, tu dois aussi remplir la déclaration initiale de CFE. Mais là, du coup, ce n'est pas un début d'activité, c'est création d'établissement et transfert d'activité.
On vous a mal informé. Vous devez vous adresser au guichet 2. Le guichet 2, je ne sais pas où ils l'ont mis. Consultez l'huissier.
Salarié 0, apprenti sous contrat 0, 0, non affecté 0.
Les administrations publient les circulaires qui comportent une interprétation du droit positif ensemble des règles juridiques applicables dans un état à un moment donné ou une description des procédures administratives. Il s'agit des administrations suivantes. Services de l'État, collectivités territoriales communes, départements, régions, collectivités à statut particulier, collectivités d'outre-mer, établissements publics. Organismes publics ou privés chargés d'une mission de service public. Par exemple, Caisse de Sécurité Sociale, France Travail, anciennement Pôle Emploi, Office HLM.
Alors, il y a une petite case ici, activité professionnelle exercée à temps partiel ou pendant moins de 9 mois de l'année. Et là, tu te dis, hop, ça me concerne.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux structures suivantes. Collectivité territoriale de moins de 3500 habitants. Personne morale, groupement de personnes physiques réunies pour accomplir quelque chose en commun, entreprise, société civile, association, État, collectivité territoriale, etc. Ce groupe peut aussi réunir des personnes physiques et des personnes morales. Il peut aussi n'être constitué que d'un seul membre, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, EURL, par exemple.
Si c'est un particulier employeur, là, il faudra mettre tout simplement son nom, numéro, URSSAF, MSA, CESU. Là, c'est vraiment des informations que seul l'employeur peut vous communiquer. Et bien sûr, vous mettez son adresse complète.
Chaque Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les listes électorales, sous certaines conditions. Ces conditions diffèrent selon qu'il habite en France ou à l'étranger.
Les registres d'inscription pour le premier tour seront donc ouverts dans une heure dans tout le pays. Les candidats doivent se faire inscrire avant la fin de la semaine, c'est-à-dire avant samedi minuit. Mais les premiers inscrits auront l'avantage de choisir les panneaux d'affichage.
Si vous êtes Français et que vous avez fait votre recensement citoyen à 16 ans, vous êtes inscrit automatiquement sur la liste électorale à 18 ans.
Les candidats doivent se présenter eux-mêmes ou charger officiellement un représentant de le faire pour eux. Chacun doit donner, comme vous et moi, lorsque l'on demande tel ou tel papier administratif, nom, âge, adresse, etc. Je peux même vous dire que la demande est à remplir en 2 exemplaires et que les candidats alors inscrits ont 4 jours pour verser 1000 francs de cautionnement. Ces 1000 francs seront remboursés aux candidats qui obtiendront au moins 5% des suffrages exprimés. Autrement dit, samedi à minuit, nous connaîtrons la liste exacte des candidats dans chaque circonscription.
Le salarié, donc c'est vous, votre adresse, il y a un complément d'adresse, donc vous connaissez votre adresse. Remplissez bien l'adresse en fonction du lieu de votre demande de changement de statut. Donc si vous faites un changement de statut à Créteil, mettez bien une adresse à Créteil. Si vous voulez faire un changement de statut dans les 95, mettez bien votre adresse dans les 95, c'est important. Ok, parce que c'est la directe de votre lieu d'habitation qui va prendre en charge votre demande, ok? D'accord, donc ensuite, ça c'est pour votre diplôme. Si vous avez obtenu un master ou l'équivalent, vous le mettez. Si vous avez d'autres diplômes obtenus à l'étranger, vous le mettez, délivré, ça vous le savez, donc à quelle date ça vous a été délivré. Donc généralement, c'est comme ça que ça se remplit.
Le contrat de travail, donc là, vous prenez les mêmes éléments. L'emploi occupé qui est là, le codrome, donc vous pourrez le retrouver. L'employeur le connaît déjà, ça aussi, mais vous pourrez le retrouver sur le site de Pôle emploi. Le niveau... Et là, le coefficient, ça aussi, c'est des informations qui apparaissent sur le contrat de travail, mais si vous voulez les retrouver sur la convention collective, les chercher sur la convention collective de la branche d'activité de votre employeur, vous pouvez le faire.
Donc la première partie, c'est réservé à la mairie, où ils vont en fait indiquer votre numéro de déclaration et la date à laquelle vous avez déposé. Donc le délai d'instruction est de 1 mois ou 2 mois si il est aux abords en fait de monuments historiques tels que les églises et ainsi de suite.
Moi quand j'ai fait mon changement de statut, ils ne l'ont pas rempli. Il y a eu des cases vides, franchement, mais bon. Faites les choses bien, remplissez toutes les cases qu'il faut. D'accord? Donc ça c'est dans le cas où voilà. Vous n'avez pas eu d'APS, c'est généralement le cas d'une licence normale ou d'un BTS, en fait, vous voulez changer de statut à ce stade-là. Donc, les conditions de recrutement, c'est important de les mettre. Même si vous avez une APS, c'est quand même important de les mettre. Moi, j'avais un master, mon entreprise ne l'a pas mis parce que ce n'est pas obligatoire dans le sens qu'on a une APS.
Institut national de la statistique et des études économiques vous inscrit automatiquement lorsque vous atteignez l'âge de 18 ans. L'INSEE se base sur les informations que vous avez données lors de votre recensement citoyen. En conséquence, vous êtes inscrit d'office sur la liste électorale de la commune où vous vous êtes fait recenser.
Si vous êtes sur le territoire depuis 3 mois minimum de séjour irrégulier, vous pouvez en bénéficier. Donc voilà. On va aller directement à la deuxième page. C'est le CERFA numéro 11573 étoile 09. Alors ici, dans la partie le demandeur, vous allez remplir votre nom tout en haut. Voilà votre nom. Et ensuite, vous allez mettre votre prénom. Là, c'est parce que c'est la version électronique. Hein. Si vous avez du mal, vous pouvez imprimer puis remplir à la main. Il n'y a pas de souci. Et tout à côté, votre date de naissance, vous remplissez bien.
La carte électorale vouée soit remise à l'occasion d'une cérémonie de citoyenneté organisée par le maire, soit envoyée par courrier au plus tard 3 jours avant le scrutin, élection ou référendum.
Que les gens peuvent être désagréables, que voulez-vous? Vous avez le formulaire bleu? Alors comment voulez-vous obtenir le laissez-passer à 38?
Description précise de l'emploi occupé, avec les spécificités des tâches à effectuer et les exigences professionnelles pour le poste. Ce que je peux vous conseiller sur ces deux éléments, voire les trois, ici, c'est de chercher à utiliser une formulation intelligente, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser la terminologie qu'on retrouve sur votre CV. En gros, utiliser les mêmes termes qu'on retrouve dans votre CV. La personne qui va étudier votre dossier n'est pas forcément compétente dans votre domaine. Donc, puisque c'est vous qui remplissez le document, utilisez les mêmes termes que vous utilisez sur votre CV. Cela va permettre de lui montrer que vous correspondez à ce poste.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux structures suivantes. Collectivité territoriale de moins de 3500 habitants. Personne morale, groupement de personnes physiques réunies pour accomplir quelque chose en commun, entreprise, société civile, association, État, collectivité territoriale, etc. Ce groupe peut aussi réunir des personnes physiques et des personnes morales. Il peut aussi n'être constitué que d'un seul membre, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, EURL, par exemple.
L'ensemble des garanties dont s'entoure notre administration pour vérifier toutes les données techniques, n'est-ce pas, qui permettent d'avoir le téléphone, sont des garanties qui ne seront plus de mise lorsque nous aurons un produit de grande consommation. Je crois que pouvoir vous satisfaire en vous disant que nous avons fait cette année un ensemble d'essais sur le territoire. En particulier, nous avons fait à Limoges un essai de fonctionnement d'un système dans lequel nous avons essayé d'obtenir la possibilité de raccorder les abonnés au téléphone sur simple coup de téléphone à travers la création d'une agence commerciale qui supprime tous les papiers ou envoie les papiers beaucoup plus tard.
En cas de litige avec une administration, vous pouvez saisir le juge administratif. Mais vous pouvez aussi faire une réclamation auprès de cette administration. Il y a 2 types de réclamations possibles. Le recours gracieux, adressé à l'agent qui a pris la décision, et le recours hiérarchique, adressé à son supérieur. Vous pouvez également saisir le défenseur des droits et, dans certains cas particuliers, un médiateur spécialisé, pour trouver une solution amiable.
Par conséquent, je dirais que l'expérience que nous avons faite à Limoges est une expérience qui est très encourageante et qui va tout à fait dans le sens de ce que vous souhaitez, mais, bien entendu, nous n'allons la généraliser que très progressivement sur l'ensemble de la France. Je crois tout de même qu'à l'heure actuelle, un certain nombre de simplifications ont été apportées et qu'il ne reste que le problème de la pénurie, à savoir des difficultés de raccorder de nouveaux abonnés qui s'opposent en général à ce que les délais soient raccourcis.
Circulaire d'une administration déconcentrée de l'État. Aide pour circulaire d'une administration déconcentrée de l'État. Aide pour circulaire d'une administration déconcentrée de l'État. Circulaire d'un ministre adressé à ses services et établissements. Circulaire d'une commune, département, région, collectivité territoriale de Corse. Circulaire d'un établissement public ou d'un autre organisme. Aide pour circulaire d'un établissement public ou d'un autre organisme. Aide pour circulaire d'un établissement public ou d'un autre organisme.